Et nous ouvrons la parole de Dieu dans le cinquième chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, on va lire tout le chapitre, mais ce matin nous allons nous concentrer sur les versets 1 à 7. Mais lisons le chapitre 5 en entier. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte : Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit : Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et donc, ce matin, nous voulons nous concentrer sur les versets 1 à 7. Et nous avons ici, au début du chapitre 5, une autre vision de ce que nous avons déjà vu, de la réalité que le Seigneur Jésus-Christ contrôle, premier mot sur la feuille, contrôle l'histoire. Par sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ a pris le contrôle de l'histoire. Tout pouvoir, il l'a dit, lui a été donné sur la terre, et dans le ciel. Et cette bonne nouvelle que nous avons un Sauveur qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le fondement, non pas de désespoir, mais au contraire d'un espoir. Parce que le message qu'il apporte, comme nous allons le voir, ce n'est pas un message d'extinction, mais un message de vie éternelle, par le salut, par la foi en Christ et par la volonté de Dieu le Père. Mais tout d'abord, le premier point à souligner, c'est que lorsque Jean voit ce qu'il reçoit cette vision, il réalise que personne, deuxième mot sur la feuille, personne n'est digne. Personne n'est digne. Nous avons vu en chapitre 4 que Jean est entré par une porte ouverte, qui était une porte ouverte dans le ciel, pour entrer dans la salle du royaume des cieux. Et il voit que Dieu est adoré par toute la création, par toute l'Église, représentée par les quatre êtres vivants et les 24 vieillards. Et donc ici, au début du chapitre 5, ils nous disent qu'ils voient ensuite, puis je vis. Et ils commencent par cet objet qu'ils voient dans la main de Dieu, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et ce livre et l'ouverture des sceaux jouent un rôle important dans les chapitres qui suivent, mais dans tout le livre de l'Apocalypse. Il donne du matériel que nous allons retrouver tout au long de ce livre. Alors, concernant ce livre que nous voyons ici dans la main droite de Dieu, il y a beaucoup de théories, j'en citerai que quatre. Certains pensent que ce livre, c'est ce qu'ils appellent le dernier testament de Jésus. Et que ce livre contiendrait ce que Pierre décrit dans 1 Pierre 1, verset 4, comme un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Une deuxième théorie dit que ce livre est le livre de vie, le livre qui contient les noms de ceux qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. Mais on peut dire, au sujet de ces deux premières théories, que lorsque les sceaux sont brisés, et nous allons voir cela dans chapitre 6 et 7, lorsque les sceaux sont brisés, le livre ne révèle pas les bénédictions de Christ pour son peuple, mais il révèle plutôt les jugements de Dieu sur le monde. Donc, ces deux théories ne tiennent pas. Les sceaux qui vont être brisés révèlent plutôt les jugements de Dieu sur le monde et non pas les bénédictions. Troisième théorie dit que ce livre dans la main droite de Dieu est l'Ancien Testament qui est correctement expliqué par le Seigneur Jésus-Christ. Et on sait que le Seigneur Jésus-Christ a expliqué l'Ancien Testament. Rappelez-vous, par exemple, sur la route d'Emmaüs, en Luc 24 et verset 27, on lit ceci, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua à ses disciples, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait, donc Moïse et les prophètes. » Et donc, il explique l'Ancien Testament. Et certains disent que ce livre correspondrait à cela. Mais il n'y a rien dans l'Apocalypse qui permette de dire que c'est l'interprétation à donner. Il semble, et selon plusieurs commentateurs, que la meilleure manière d'interpréter, c'est que ce livre que nous voyons dans la main de Dieu est en fait le livre qui représente toute la volonté de Dieu. Troisième mot sur la feuille. Il représente toute la volonté de Dieu pour l'histoire. Cette volonté, ce dessein de Dieu qui comprend aussi bien le jugement des méchants que le salut de son peuple. Ce livre, nous avons lu, est écrit en dedans et en dehors. C'est qu'il est vraiment complet. Il est rempli et il contient tout ce que Dieu a prévu pour l'histoire de ce monde. Un commentateur écrit ceci, « Ce livre symbolise le dessein de Dieu concernant l'univers tout au long de son histoire, ainsi que toutes les créatures de tous les siècles et pour l'éternité. » Donc c'est vraiment le livre qui contient le dessein de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour l'histoire. Et l'apparition de ce livre soulève un problème immédiat. Verset 2, Jean écrit qu'il voit un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Jean découvre qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit digne, digne de se tenir devant Dieu, digne de recevoir ce livre et d'en ouvrir les sceaux. Et si cette personne n'existe pas, le contenu de ce livre que Dieu tient dans sa main ne serait pas révélé. Et la volonté de Dieu pour l'histoire ne serait pas exécutée. Un autre commentateur dit ceci, la destinée de Jean, de l'Église et de l'univers tient dans la réponse à cette question. Y a-t-il quelqu'un qui soit digne d'ouvrir ce livre? Et Jean pleure, verset 3. Il pleure, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, verset 4, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. On peut dire deux choses par rapport à cela. La première, c'est que, sans aucun doute, une des raisons pour lesquelles Jean pleurait, c'est qu'il avait conscience de sa propre indignité et de l'indignité de toute la race humaine, quatrième mot sur la feuille. Dieu, nous savons, a créé l'homme pour exercer l'autorité sur la création. Cela nous est rappelé dans le récit de la Genèse, chapitre 1. Mais nous savons que Adam est tombé de cette position quand il a péché, quand il a désobéi au commandement de Dieu. Et il est tombé et il a mis tous ses descendants dans cet état de culpabilité et de corruption. Et Jean, en tant qu'homme, regarde ce livre et il voit et il entend que personne n'est digne de l'ouvrir. Et il goûte à la détresse de la condition humaine pécheresse. Il n'est pas digne. Lui, en tant qu'homme, il non plus, il n'est pas digne. Mais personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'eût pu ouvrir le livre, ni le regarder. Une autre raison, c'est que Jean pleure aussi parce qu'il réalise que les sceaux vont rester fermés et il pense à toutes les bénédictions, cinquième mot sur la feuille, toutes les bénédictions qui sont promises aux croyants, mais qui ne peuvent être révélées qu'avec la rupture de ces sceaux et l'ouverture de ce livre. Et un commentateur écrit, la raison de ces pleurs est facile à comprendre si l'on se rappelle que dans cette vision, la rupture des sceaux et l'ouverture du livre signifient l'exécution du plan de Dieu. Si les sceaux étaient brisés, le livre ouvert, l'univers serait alors gouverné pour le bien de l'Église et le magnifique dessein rédempteur de Dieu serait accompli. Son plan deviendrait réalité. Mais si le livre demeurait fermé, il n'y aurait ni protection pour les enfants de Dieu à l'heure douloureuse des épreuves, ni jugement pour les persécuteurs, ni victoire finale pour les croyants, ni nouveaux cieux, ni nouvelle terre, ni héritage futur. Si le livre restait fermé, le plan et les promesses de Dieu ne pourraient être révélés ni exécutés. Et nous, comme Jean, nous pouvons être attristés quand la volonté de Dieu semble être frustrée dans notre expérience. On regarde à l'Église sur un plan général, par exemple, et on voit des compromis, on voit le déclin. Et comme les croyants auxquels Jean s'adressait, et ce livre a été envoyé en premier, les croyants du premier siècle, nous aussi, nous allons peut-être connaître la persécution à cause de notre témoignage pour l'Évangile. On pourrait sentir les mêmes frustrations, même dans nos familles, quand on voit certains des membres de nos familles se détourner de l'Évangile, ou quand on voit des couples se séparer. Pourquoi ? Et on peut se poser toutes sortes de questions. Pourquoi est-ce qu'on passe à côté des bénédictions que Dieu réserve pour son peuple? Et comme Jean l'a appris, nous serons sans doute amenés à réaliser que la plupart du temps, c'est à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché. et de notre indignité. Mais comme Jean a découvert, notre réconfort vient dans l'apparition victorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le message des versets suivants. Donc le premier point, personne n'est trouvé digne. Mais il a une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, le deuxième point, ne pleure pas. Mais il faut souligner que au verset 5, le réconfort, sixième mot sur la feuille, le réconfort qui est apporté à Jean n'est pas apporté par un ange. Ce n'est pas un ange qui vient vers Jean pour le réconforter, parce qu'un ange ne connaît pas la détresse causée par le péché. Ici, le réconfort vient par quelqu'un qui a aussi connu la rédemption, par un autre croyant, l'un des vieillards, un de ceux qui représentent les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, de toute l'ère, de toute l'histoire. Et cette personne dépend aussi de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. Et le croyant et le vieillard s'écrient, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Voilà le réconfort qui est apporté. Et il est apporté par quelqu'un qui lui aussi a connu la rédemption. Et il sait de quoi il parle. Voilà, le réconfort ne vient pas d'un ange, il vient d'un autre croyant qui dirige le regard vers Christ. Et tout d'abord, le Seigneur Jésus-Christ est décrit comme le lion, septième mot sur la feuille, le lion de la tribu de Juda. C'est, sauf erreur de ma part, le seul verset dans la Bible qui décrit le Seigneur Jésus comme le lion de Juda. Mais l'image est tellement grande, est une telle inspiration que c'est un des titres que le peuple de Dieu préfère du Seigneur Jésus-Christ. Le lion de Juda. Et ce titre décrit le Seigneur Jésus-Christ comme l'accomplissement de la prophétie de Jacob sur son lit de mort. En Genèse 49, nous lisons ceci, versets 9 et 10. Jacob dit « Juda est un jeune lion, le sceptre ne s'éloignera point de Juda ». Jacob voit une dynastie royale sortir de Juda. Et le descendant, l'héritier du Juda, est le Seigneur Jésus-Christ, qui règne sur l'histoire comme un lion règne sur son domaine sans faire de concession. Il est le lion de Juda. Mais le deuxième titre qui est donné au Seigneur Jésus est celui de rejeton, huitième mot sur la feuille, le rejeton de David. Et ce titre est basé sur le passage que nous avons lu tout à l'heure, dans Ésaïe chapitre 11, qui décrit Dieu apportant la paix sur la terre. Verset 9, nous avons lu, « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Et cette bénédiction est assurée par celui qui vient comme, verset 10, Ésaïe 11, verset 10, le rejeton d'Isaïe. Et Isaïe n'est autre que le père de David. La maison de David allait être presque entièrement détruite à cause du péché. Mais comme Ésaïe 11, verset 1 dit, un rejeton, un rameau sortira d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Et cette promesse décrit le Seigneur Jésus-Christ, qui est né de la descendance de David, quand celle-ci était sur le point de s'éteindre. Et il est venu dans la puissance de l'Esprit-Saint, dans ce monde, pour apporter et accomplir le salut. Et en tant que lion de Juda et que rejeton de David, le Seigneur Jésus-Christ révèle qu'il est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Et il donne les preuves que le plan de Dieu pour le salut de son peuple est mis à exécution. Le plan de Dieu est en train d'être mis à exécution. Mais il est décrit aussi comme étant, au verset 6, Jean le voit comme un agneau qui était là comme immolé. Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le vieillard décrit à Jean que celui qui est digne est le lion de la tribu de Juda. Et quand Jean regarde, il voit un agneau. Et on peut le comprendre quand on regarde le lieu où se tient cet agneau. Il se tient au milieu du trône et au milieu des vieillards. Et c'est la position du médiateur qui est entre le trône et les vieillards. Il est au milieu du trône et au milieu des vieillards. Il est entre Dieu et les hommes. Et bien qu'il soit lion, le Seigneur Jésus réconcilie son peuple à Dieu par son ministère en tant qu'agneau. Et l'apparition du Seigneur Jésus-Christ comme étant comme le lion et aussi l'agneau, cette apparition fait partie de sa gloire en tant que sauveur, ce sauveur qui s'est incarné pour sauver son peuple. Dans notre expérience, on pourrait décrire une personne comme étant, par exemple, qui ressemble à un lion, c'est-à-dire qui est forte, qui est dominante. Ou alors, on va dire qu'une autre personne, par opposition, va être comme un agneau. Elle va être douce, serviable. Mais le Seigneur Jésus unit ces qualités dans sa personne, dans un équilibre, dans une harmonie parfaite. En tant que lion, le Seigneur Jésus-Christ manifeste la puissance souveraine de Dieu pour gouverner, pour diriger toutes choses. Et en tant qu'agneau, il exerce son ministère dans l'obéissance et la douceur. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul, par exemple, qui peut dire en Jean 15, verset 10, « J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » J'ai gardé, c'est le seul qui peut dire qu'il a gardé les commandements. Il est venu obéir et se soumettre à la volonté parfaite de son Père, et il l'a fait. Mais il est intéressant aussi de noter que l'agneau, que Jean a vu l'agneau qui se tenait là, qui était là, comme immolé. C'est-à-dire l'agneau qui a souffert la mort, mais qui est victorieux. Il n'est pas resté immolé, mais il se tenait là. Et Jean le voit avec tous ses symboles. Il avait, verset 6, il avait sept cornes et sept yeux. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, les cornes sont des symboles de puissance contre un ennemi. Et quand Jean voit sept cornes, il voit en fait le Seigneur avec la puissance totale, c'est-à-dire l'omnipotence divine, la toute-puissance de Dieu. Et les sept yeux sont, nous dit Jean, les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre, c'est-à-dire l'Esprit Saint dans toute sa perfection, la perfection de sa personne, la perfection de son œuvre. Ça nous renvoie à Ésaïe 11. Nous avons lu au sujet du rejeton d'Isaïe, au verset 2, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ est entièrement animé par le Saint-Esprit. Et il a la toute-puissance de Dieu. Il a les sept cornes. Il est donc digne d'ouvrir, de prendre et d'ouvrir ce livre, c'est-à-dire de révéler et d'accomplir la volonté de Dieu qui inclut le jugement des méchants et le salut de son peuple. Mais ce qui est peut-être encore plus important à souligner, c'est que bien que Jésus soit décrit comme étant le lion de Juda, avec sa toute-puissance divine, il a vaincu par l'œuvre qu'il a accomplie en tant qu'agneau. Il a remporté la victoire en tant qu'agneau. Celui qui a vaincu pour ouvrir le livre des sept sceaux, le livre et les sept sceaux, c'est l'agneau qui a été immolé. Dans l'Apocalypse, on retrouve à 28 reprises cette description du Seigneur Jésus-Christ comme l'agneau. Et cela montre que son œuvre expiatoire sur la croix, c'est ce qui a ramené, ce qui a remporté, ce qui a apporté la victoire pour son peuple. Un commentateur dit ceci: Dieu a accompli son triomphe et délivré son peuple, non pas par la puissance militaire, mais par la faiblesse de la crucifixion. Et cette œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, de l'agneau qui a été immolé, elle a été introduite sur la scène du premier péché, rappelez-vous, dans le jardin d'Éden. Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, la conséquence c'était la mort. Et Dieu a annoncé l'évangile quand il a pourvu à un substitut, dixième mot sur la feuille, un substitut qui allait souffrir à leur place, qui allait satisfaire la justice de Dieu pour leurs péchés. En Genèse 3, 21, nous lisons: « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Il a donné, il a pourvu à un animal qui est mort à leur place. Le sacrifice de cet animal a enseigné le principe de substitution, un innocent qui meurt à la place du coupable. Et l'utilisation des peaux pour revêtir Adam et Ève va enseigner le principe de justice imputée, onzième mot sur la feuille, c'est-à-dire d'une justice qui est mise au compte, la justice de Christ qui est parfaite, cette justice qu'il a obtenue par son obéissance, par sa vie parfaite, est mise sur le compte de ceux qui croient en lui. Et tout au long de l'Ancien Testament, les sacrifices d'animaux ont continué. Ils ont rappelé au peuple leur péché, que leur péché ne pouvait être enlevé que par la mort d'un sacrifice, mais d'un sacrifice qui devait être valable. À la Pâque, Israël était délivré d'Égypte par le sang d'un agneau qui a détourné l'ange de la mort. À la fête annuelle des expiations, le souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint ou le saint des saints avec le sang de l'agneau immolé pour détourner la colère de Dieu. C'était des images qui parlaient de cette réalité que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir quand il est mort sur la croix. Et sur le chemin d'Emmaüs, encore une fois, le Seigneur Jésus-Christ a rappelé ces choses et a expliqué aux disciples, ces disciples qui étaient perdus, qui étaient perplexes de tout ce qu'ils venaient de vivre, de tous ces événements qu'ils venaient de connaître. Mais il leur a expliqué que la mort du Sauveur, douzième mot sur la feuille, La mort du Sauveur était un point central de tout l'Ancien Testament. Luc 24, verset 26, Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il meure. Et c'est en s'avançant comme le véritable agneau de Dieu, portant les péchés de son peuple, que Jésus remporte la victoire. Il a porté la culpabilité de nos péchés, nous qui étions condamnés sous la loi de Dieu. Et il a libéré son peuple de la condamnation qu'il méritait. Et c'est pour ça que lorsque Jean voit l'agneau, verset 7, il voit cet agneau verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Jean est témoin de l'exaltation du Seigneur Jésus-Christ vient auprès du Père et qui est victorieux et qui vient pour ouvrir ce livre et accomplir le plan de Dieu. Un commentateur dit ceci, « Christ, en tant que médiateur, a reçu lors de son ascension l'autorité de gouverner l'univers selon le décret immuable de Dieu. Comme l'Ancien Testament l'avait annoncé et promis, le royaume est remis à Christ en récompense de son œuvre rédemptrice. » Et Jean, donc, n'a plus besoin de pleurer. Jean n'a plus besoin de pleurer parce qu'il voit l'agneau, il voit le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau sur le trône qui allait ouvrir le livre de la volonté de Dieu et qui allait l'accomplir, le mettre à exécution. Et en plus, Jean voit que les manquements, ses propres manquements et les manquements de toute l'humanité dans le péché ne sont pas des freins, que le lion de Juda règne et règne avec puissance pour sauver son peuple. Ne pleure point, dit le vieillard à Jean. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et le troisième point, la victoire, treizième mot sur la feuille, la victoire par l'agneau. Lorsque Jean et lorsque nous voyons que Jésus ne remporte pas la victoire en tant que lion, mais en tant qu'agneau, nous et tous les croyants, nous avons un aperçu de comment nous allons vaincre par la foi en Christ. Rappelez-vous, dans chacune des lettres que nous avons étudiées dans les semaines précédentes, dans les chapitres 2 et 3, Jésus s'est toujours adressé à celui qui vaincra. Mais avec le point de vue que nous avons du chapitre 5, nous pouvons comprendre ce que veut dire vaincre par la foi en Jésus-Christ. Tout d'abord, et c'est essentiel, c'est évident, la première étape de notre victoire spirituelle, c'est tout d'abord de recevoir le salut par la grâce seule, avant que nous ne fassions quoi que ce soit pour ou avec Christ. Nous devons être sauvés par Christ. C'est le 14e mot sur la feuille. Et Jean explique par exemple cela dans sa première lettre, des versets que nous connaissons. Il rappelle que le pardon des péchés est quelque chose d'un besoin universel. Par exemple, 1 Jean 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Et le remède, il nous le donne au verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et au début du chapitre 2, les versets 1 à 2, il va élaborer, si quelqu'un est péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et là, on devrait plutôt lire une victime propitiatoire, c'est-à-dire quelqu'un qui détourne la colère de Dieu. Et il la détourne sur lui-même. Jésus doit détourner la colère de Dieu, cette colère que nous avons méritée. Donc la première, bien sûr, la première étape de vivre par la foi en Christ, c'est d'abord de le connaître, d'être sauvé par lui, de lui appartenir. Ensuite, il est question de suivre, 15e mot sur la feuille, de suivre Christ et de le suivre dans un service qui est un service qui est à la fois un service de lion et un service d'agneau. Cette combinaison que nous voyons parfaitement dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cet équilibre de toutes ces perfections, mais nous la trouvons aussi dans la vie des croyants. Et c'est l'expression de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est le signe de cette vie nouvelle dans le croyant, qui manifeste une puissance spirituelle du lion avec la douceur et la tendresse d'un agneau. Nous sommes appelés à être forts, à être des lions dans notre force, dans notre fidélité au Seigneur Jésus-Christ, mais aussi à être des agneaux dans nos contacts avec ceux qui vivent encore dans le péché. Et donc vaincre comme en étant des disciples du Seigneur Jésus-Christ, cela veut souvent dire souffrir pour l'Évangile. Cela veut dire, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a montré, mettre le bien-être spirituel des autres avant notre bien-être matériel. Désirer le bien-être spirituel des autres avant de désirer notre bien-être matériel. Et Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 21, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » 1 Pierre 2, verset 21. Et comme pour le Seigneur Jésus-Christ, nous aurons très souvent le plus grand impact sur ce monde par une perte que nous allons subir à cause de notre obéissance, à cause de notre foi, à cause de notre fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Et comme pour le Seigneur Jésus-Christ, nous savons que les lions, pour ainsi dire, les lions de la foi, doivent vaincre à la manière de l'agneau, que la couronne de la vie éternelle n'est portée que par ceux qui ont d'abord porté la croix. 16e mot sur la feuille. La couronne de la vie éternelle n'est portée que par ceux qui ont d'abord porté la croix. Mais Jean, donc, quand il voit ces choses, au début, il pleure parce qu'il voit que personne n'est digne, mais il se réjouit. Il se réjouit de voir que le Seigneur Jésus-Christ est le lion qui a vaincu comme l'agneau. Et nous aussi, nous sommes donc appelés à suivre et à être des vainqueurs. Et nous allons vaincre comme les agneaux. Mais nous sommes des vainqueurs de plusieurs manières. Dieu, dans sa grâce, nous donne la force de pouvoir nous repentir de nos péchés et de pouvoir proclamer la vérité et de pouvoir témoigner par nos vies, par nos paroles. La force du lion que Dieu nous donne, que l'Esprit nous donne, en étant en nous, en vivant en nous, nous porte au travers de bien des épreuves. Mais nous ressemblons davantage au Sauveur quand nous sommes vainqueurs par cet amour qui se donne, cet amour sacrificiel que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a montré, nous a donné, quand il s'est donné, quand il s'est livré lui-même. Nous sommes, nous l'avons chanté tout à l'heure, appelés à porter notre croix, à porter la croix, à pardonner à ceux qui nous font du tort, à chercher à répandre avec grâce ce merveilleux évangile autour de nous. Et ceux qui suivent l'agneau dans la soumission à la volonté du Père, c'est à eux que Jésus fait cette promesse que nous avons déjà vue au chapitre 3 et au verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 17e mot sur la feuille. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous allons revenir sur ce passage du volant la semaine prochaine. Mais que Dieu déjà nous aide à comprendre, à saisir, à nous réjouir comme Jean s'est réjoui de voir qu'il y a quelqu'un qui est digne. Cette personne est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nous, nous sommes appelés à suivre son exemple, à être des agneaux dans ce monde, à vivre comme des agneaux, à porter notre croix, sachant que la couronne est réservée pour celui qui vaincra en Christ. La victoire est en Christ, est dans l'agneau, dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu donc nous aide à comprendre ces choses et à le vivre pour sa gloire. Amen.